Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma, aujourd'hui a comme Aldrich, Robert Aldrich, le sale gosse d'Hollywood, avec Jean-François Roger, Marcos Ouzal et Entebbin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large, série d'été sur les francs-tireurs du cinéma. Il est le metteur en scène vivant le plus vivant de tous, celui chez qui l'on décèle davantage l'amour du cinéma et le plaisir d'en faire. S'enthousiasmait Claude Chabrol en 1955, quand celui qui était alors critique et futur cinéaste découvrait Robert Aldrich et louait son imagerie puissante et sa mise en scène à la truelle, un compliment sous sa plume. L'étoile critique de Big Bob a au fur et à mesure de ses déboires avec les studios hollywoodiens et ses qualités devinrent vite des défauts. On lui reprocha ses outrances, sa brutalité, son mauvais goût. Or, c'est bien parce qu'il est brutal, radical et viscéral, parce qu'il est un cinéaste de l'image choc et du corps en action, que Robert Aldrich occupe une place si singulière dans l'histoire du cinéma, au sein de cette génération intermédiaire du cinéma américain qui a vu s'effondrer les grands studios et préfigurer le nouvel Hollywood. Surnommé le Taras Bulba d'Hollywood, Robert Aldrich partageait avec le personnage de Gogol, qu'il rêva longtemps de porter à l'écran, nombre de points communs, comme l'a noté Michel Mayo dans son livre sur le cinéaste, l'énergie, la carrure, le lyrisme, l'appétit de vivre, le refus du désespoir, le goût de l'acte grandiose, l'antifatalisme, un rapport au monde à la fois élémentaire et spectaculaire. Irréductible et inclassable, Robert Aldrich, car si ceux qui ont fait des Douze Salopards un immense succès populaire voient en lui un spécialiste du film de guerre, il a en fait touché à tous les genres hollywoodiens pour mieux les subvertir et exploser la notion même de genre, à l'instar de ce chef-d'œuvre apocalyptique qu'est En quatrième vitesse. Un Plan Large se replonge aujourd'hui dans les fictions affolées de ce grand peintre d'une Amérique en état de choc, névrotique et corrompu qu'est Robert Aldrich, avec un fervent aldrichien, Jean-François Roger, critique et directeur de la programmation de la Cinémathèque française, et tout aussi passionné par le gros bob, Marcos Ouzal. En fin d'émission, Entebbin nous parlera de trois séries B obsédées par la question du mal, et signé Richard Fleischer, édité en coffret DVD, L'étrangleur de Rillington Place, Terreur aveugle et Les flics ne dorment pas la nuit, thriller, suspense et polar, mais pour l'heure, action.
Back where you belong. You saw the peace pipe in Geronimo's hands.
Geronimo does not speak for me. I remember what happened to others who surrendered. Shipped off like cattle to a faraway place called Florida, never to return.
But at least you would be alive, Masai.
You call that life? If an Apache cannot live in his home mountains like his fathers before him, he is already dead. Now get back where you belong. Stay down. Firing stops there close by.
Put that away.
You want us to kill you, don't you, Masai? Right out here in front of all your bloodthirsty brethren, so they can sing your praises around the campfires and start another war in your honor. It'd be a sweet death, wouldn't it, Masai? A warrior's death. But you're not a warrior anymore. You're just a whipped Indian. And nobody sings about handcuffs. Take him along, Hondo.
Tu n'es plus un guerrier, tu es un Indien vaincu, vous l'avez dit, Jean-François Roger. C'est Maasai, bronco-apache, l'apache indompté, c'est celui qui refuse de se rendre avec Geronimo et d'accepter la déportation en Floride. C'est aussi Burt Lancaster, ce Maasai, producteur du film, qui entame là une longue carrière avec Robert Aldrich, il lui sera très fidèle. Et puis c'est un des trois films sortis coup sur coup en 1955 et qui, avec Vera Cruz, avec Quatrième Vitesse, vont tellement impressionner les critiques français, en tout cas ceux des cahiers du cinéma. Et il ne va pas faire l'unanimité, Aldrich, il ne la fera jamais. Et puis c'est aussi un des premiers westerns pro-indiens. Il arrive 4 ans après les pionniers que sont La Flèche Brisée de Delmer Daves ou La Porte du Diable d'Anthony Mann. Anthony Mann, d'ailleurs, on va en parler prochainement. Dans Plan Large, le scénario est de James R. Webb, qui va signer 10 ans plus tard un autre grand western pro-indien, Les Cheyennes, pour John Ford. Sauf que Jean-François Roger, Aldrich va quand même beaucoup plus loin que ses prédécesseurs, parce que on est loin avec Maasai du bon sauvage, le gentil rebelle très présentable qui voudrait préserver son innocence. Maasai d'emblée est un personnage violent, un personnage égoïste, orgueilleux, quasiment paranoïaque, et c'est ça qui fait sa force.
Oui, c'est ça ce qui frappe. C'est un héros aldrichien pur. C'est un individualiste forcené qui ne veut pas se plier aux règles de la société, aux prescriptions de l'histoire. Et donc il y a cette violence là, la violence qu'il incarne, elle va se retrouver dans tout le cinéma d'Aldrich et à travers un certain nombre de personnages qui vont vraiment incarner l'expression d'une certaine volonté de puissance en fait. Hein, c'est ça le héros aldrichien. C'est poursuivre son chemin, poursuivre sa voie, vaille que vaille. Et Burt Lancaster dans Bronco Apache incarne un personnage de ce type-là. Alors vous avez dit effectivement que c'est le film est sorti, il fait partie des premiers films d'Aldrich qu'on découvre en France. Il faut se rendre compte que coup sur coup arrive en France Bronco Apache, Vera Cruz et En Quatrième Vitesse, et ça rend les cinéphiles fous. C'est-à-dire que tout d'un coup le cinéma américain devient plus fou, plus brutal, plus il y a une forme d'excentricité auquel ils étaient pas habitués. Et donc vous avez eu raison de constater que la cinéphilie s'est emparée d'Aldrich. Alors les cahiers du cinéma, évidemment, très très beaucoup, Truffaut, Chabrol notamment. Aussi positif que donc le frère ennemi des cahiers du cinéma avait aussi défendu les premiers films d'Aldrich. Alors dans l'extrait que vous avez montré, il est remarquable parce qu'il y a vraiment déjà tout, enfin il y a tout ce qui va composer en fait le film et puis ce qui va annoncer l'œuvre d'Aldrich, parce que Chabrol parlait de filmage à la truelle. Ben on est au début du film, il y a un affrontement entre la cavalerie et les Indiens se font face et ils sont en train de pointer leurs fusils les uns contre les autres, et Geronimo avec un drapeau blanc passe au milieu, c'est la reddition. Maasai ne veut pas se rendre, et donc il arrache comme ça le drapeau, il passe à cheval, il tire sur le drapeau et il se cache derrière un repli. Et il est immédiatement rejoint par Jean Peters, qui est la femme qui va l'aimer comme une folle pendant tout le film, jusqu'à souffrir pour lui.
Il va se traîner à ses pieds sur les rochers.
C'est très bizarre parce que le plan où elle apparaît, on a l'impression que tout d'un coup on est dans la nature, on est dans un espace, et puis elle apparaît, elle surgit de nulle part. C'est presque un peu théâtral. Et on peut dire que ce montage-là, cette collision-là, elle marque ce goût d'Aldrich pour une forme de dissonance. Et c'est déjà dans Bronco Apache.
Alors cette dissonance et cette façon de représenter l'Indien, elle ira encore plus loin dans une sorte de remake inversé de Bronco Apache qui sera Fureur Apache 18 ans plus tard, où là, alors il va très très loin dans la représentation de l'Indien comme altérité absolue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que la morale de l'homme blanc ne peut pas comprendre et pour qui ça va être juste un être de pure cruauté.
Bah, on pourrait dire que c'est un film qui dit ce que pourrait être ce qu'on appelle le choc des civilisations, c'est-à-dire que pour c'est un film encore plus beau que Bronco Apache. Bon, c'est un très très grand film, Fureur Apache, où là Burt Lancaster joue le rôle d'un scout de l'armée au service de l'armée blanc, mais qui connaît les Indiens et les Apaches, et qui sait que la volonté universaliste, notamment du christianisme incarné par un jeune officier de cavalerie, ne pourra rien rien face à l'altérité radicale de la page, son sens de l'humour d'une cruauté incroyable, etc. Et donc c'est un film qui sera d'ailleurs attaqué pour racisme. Hein. On est en 72, on est à une époque où on ne peut plus représenter la page comme un être, enfin l'Indien comme un être méchant voire cruel.
C'est l'époque Little Big Man. Quoi. L'Indien est forcément bon.
Et c'est voilà ce qui évidemment est une hérésie absolue en termes historiques. Et je pense que c'est au contraire le film le plus antiraciste qui soit, puisqu'il conçoit l'autre dans sa différence absolue.
Voilà, alors il va dynamiter le western dans ses débuts, mais tout immédiatement, vous l'avez dit, on le découvre en même temps, c'est tout le cinéma hollywoodien qui va exploser avec lui.
What's in the box?
Curiosity killed a cat, and it certainly would have you if you'd followed your impulse to open it. You did very well to call me when you did.
Yes, I know. But what's in it?
You have been misnamed, Gabrielle. You should have been called Pandora. She had a curiosity about a box and opened it and let loose all the evil in the world.
Never mind about the evil. What's in it?
Did you ever hear of Lot's wife?
No.
No. Well, she was told not to look back, but she disobeyed and she was changed into a pillar of salt.
Well, I just want to know what it is.
Would you believe me if I told you? Would you be satisfied?
Maybe.
The head of the Medusa. That's what's in the box. And whoever looks on her will be changed not into stone, but into brimstone and ashes. But of course, you wouldn't believe me. You'd have to see for yourself, wouldn't you?
Where are we going?
Where I am going, it is not possible for you to go. I had no illusion about deceiving you. You have the feline perceptions that all women have. Would you mind moving? You're sitting on my coat.
Whatever is in that box, it must be very precious. So many people have died for it.
Yes, it is very precious.
I want half.
I agree with you. You should have at least half. You deserve it. For all the creature comforts you've given me. But unfortunately, the object in this box cannot be divided.
Then I'll take it all. If you don't mind.
C'est la fameuse boîte de Pandore dans Quatrième Vitesse, Kiss Me Deadly en 1955. C'est le fameux Great What's It, le grand machin derrière lequel tout le monde court dans le film, ou comment Robert Aldrich transforme un polar de Mickey Spillane en une sorte de grande parabole sur l'ère atomique complètement vouée à l'apocalypse. Mais surtout, il va faire d'un film noir un film complètement abstrait. C'est ce qui va passionner, là encore, la critique, notamment François Truffaut, qui est fasciné par cette abstraction. Action
qui citera dit à Cocteau. Il dit, c'est qu'un équivalent, c'est le sang d'un poète de Cocteau.
Comment est-ce qu'il obtient cette explosion même du film noir et cette tension? Ce qui est incroyable dans Quatrième Vitesse, et pour une fois, le titre français porte bien son nom, c'est que ça va très vite, qu'il y a une tension dans toutes les scènes et ça n'arrête pas.
Oui, ça n'arrête pas. C'est un film d'une brutalité incroyable. D'ailleurs, ça lui sera reproché à l'époque. Le film est très violent. Il reprend, en fait, c'est l'adaptation d'un roman de Mickey Spillane, vous l'avez dit, mais il va changer fondamentalement, notamment l'objet de la quête des personnages. C'est plus une valise pleine de drogue, mais c'est la fin du monde. Enfin, c'est la bombe atomique. Alors Aldrich était persuadé d'avoir mis dans le film beaucoup d'allusions au macartisme, et il était un peu déçu du fait que la critique française ne s'en était pas aperçue. Ou s'en fichait un peu en fait, mais ce qui est alors quand on entend notamment l'extrait que vous avez passé, on pense que il est vraisemblable que Wells ait subi une forte influence sur ce film, notamment la sophistication des dialogues, la référence à la mythologie, etc. Mais ce qui est très beau dans le film, c'est qu'il est brutal, il est violent, il est évidemment bourré de dissonances visuelles et sonores, mais c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de films d'Aldrich. C'est un itinéraire moral. C'est-à-dire que les individus chez Aldrich, à la fois, ils poursuivent leur voie, il y a une volonté de puissance qui est très, très affirmée, et en même temps, il y a l'idée que dans l'action, tout d'un coup, on va trouver une quête. Et ce personnage de Mike Hammer, qui est le détective privé, qui est le héros de ce film, qui est un être absolument cynique, qui ne pense qu'à l'argent et à séduire les femmes et à les jeter, tout d'un coup, va prendre conscience que la seule manière pour lui de se sauver, c'est de retrouver, de sauver la femme qu'il aime. Et donc, plus le film s'approche de l'apocalypse, plus lui va essayer de trouver une voie morale. Et donc, c'est dans la rencontre de ces deux lignes que le film se situe.
Cet itinéraire moral, et sauver la femme qu'il aime, ça on ne le saura que en 1996, il me semble, parce que la copie qui était distribuée au départ, il lui manquait les deux derniers plans, justement, où il la sauve et il assiste à l'apocalypse, alors qu'on pouvait penser, dans la version qu'on voyait avant, qu'il était puni, puisque la maison explosait, lui avec.
Oui, encore, mais ça change pas grand chose. C'est-à-dire qu'on sait que pendant le récit, tout d'un coup, le personnage change, psychologiquement et moralement. Et c'est ça qui compte. Et effectivement, il y a deux version du film. Il y a la version où le dernier plan, c'est la maison qui explose. On peut penser que c'est le monde qui explose. Puis un plan, il y a deux plans ensuite qu'on a retrouvé après, enfin qu'on connaît après, où on retrouve les deux personnages en train de courir dans la mer. Échapperont-ils à l'explosion générale? On ne sait pas. C'est une fin quand même assez ouverte, mais il y a un peu plus d'espoir. C'est un peu moins nihiliste, parce que le nihilisme, c'est aussi un reproche qui a été fait à Aldrich.
Ce qui a frappé beaucoup aussi, et qui frappe encore quand on voit le film, Marco Souzal, c'est le début. Et les débuts des films d'Aldrich sont toujours assez passionnants. Il y a toujours des séquences d'ouverture. Le générique arrive parfois 10 minutes après le début du film. Et ici, on l'avait entendu dans l'émission qu'on avait consacrée à André Bazin, avec cette femme qui court sur la route, qui va rentrer dans la voiture de Mike Hammer avec des gémissements. Quand on entend la bande-son, c'est très étrange, parce qu'on a l'impression qu'ils sont en train de faire l'amour alors qu'elle est en train de fuir dans la voiture. Et ce générique qui arrive à l'envers.
Oui, alors c'est un point commun qu'il a avec un cinéaste dont je trouve assez proche, qui est Samuel Fuller. C'est des cinéastes qui ont des débuts comme ça, un peu chauds, sur les chapeaux de roue, et qui mettent le spectateur dans un certain état d'effarement, ou enfin d'étonnement, qui va avec l'aspect, je dirais, parce que là c'est un extrait dans Quatrième Vitesse, on a entendu plein de références à des mythes, et je pense qu'il y a un côté un peu anti-mythologie chez Aldrich, en tout cas par rapport au cinéma hollywoodien. C'est pas quelqu'un qui... Il va casser un peu les mythologies, même dans Bronco Apache d'ailleurs, parce que l'Indien de Bronco Apache est un peu irrécupérable, hein, il représente que lui-même. Et là, c'est pareil, Mike Hammer, on n'est pas du tout dans la... Dieu sait s'il y a un cinéma qui est un genre qui est très dans la mythologie, qui est le film noir. Là, on ne l'est pas du tout. Et le parcours moral dont parlait Jean-François, c'est le film qui le construit. On a l'impression que le personnage arrive vraiment sans rien pour lui. Et c'est le film, peu à peu, qui va le dessiner, le construire.
On n'est ni dans la mythologie, ni dans la psychologie non plus. La psychologie, c'est très important dans le film noir, où la psychanalyse a fait beaucoup de ravages. Mais ça, ça n'intéresse pas du tout Aldrich.
Alors, pas de psychanalyse chez Aldrich, mais beaucoup de névrose quand même.
My boy like you, who are you? Who are you? You some kind of special aristocracy because the female public wants to make love with you? Who are you with your dirty, unmanicured fingernails? And what? What are you without Hoff Federator behind you? I built the studio. I, with my brain and my hands, I ripped it out of the world. With my brains and my hands, and who are you?
No, this must stop.
Oh, do I have to listen to this miserable boy? A man like myself who's wined and dined with presidents and kings.
Oh, my aching back.
Do I have to cater to this?
What line of your phony senatorial eloquence, and boy, well, I'll chop you down like firewood.
It is a bitter, miserable pity to have to talk to you.
That's it. That's the deal.
Charlie, I beg of you, please.
We never have to talk to each other again. Nat, you're my agent. From now on, it's you and him. I never have to talk to him again.
He'll drive me too far.
Oh, will I? What's your boiling point, Uncle Huff? Oh, don't suck. Don't act bored. And please don't cry.
Charlie, I beg of you, please.
I'm deliberately tampering with your modest ego, Stanley, because today I see what Stanley Schreiner Hoff would do to protect an investment. Murder.
This man buries himself with his mouth.
Look at him. Get his act. He's trying to play the crocodile, and what is he, a little lizard under a rock?
Smiley, if you get together with the legal department in the morning, you comb through the castle contract, and you find me an opening. You find me a peg.
Stanley.
Vous écoutez France Culture, plein large sur Robert Aldrich avec Jean-François Roger et Marcos Uzal. Et cette voix qu'on a entendue, c'est le génial Rod Steiger dans le rôle de Stanley Hoff dans Le Grand Couteau de Robert Aldrich. On est toujours en 1955, hein, il a vraiment un début de carrière tout à fait époustouflant. Robert Aldrich, Stanley Hoff, sorte de mélange assez monstrueux de Louis B. Mayer, de Jack Warner et de Harry Cohn, c'est-à-dire tous les moguls des grands studios de l'époque. Il est complètement peroxydé, il est équipé d'un sonotone comme David Lynch en Gordon Cole dans Twin Peaks. Et puis face à lui, un acteur, Jack Palance, qui joue Charlie Castle, une star de film d'action, un peu, qui pourrait jouer dans les films d'Aldrich, sauf qu'à la maison, il est complètement effacé, alcoolique. Et sa femme, d'ailleurs, va lui reprocher beaucoup plus sa veulerie que son alcoolisme ou ses aventures extra-conjugales. C'est un des grands sujets d'Aldrich, c'est la critique d'Hollywood. Il va faire plusieurs films sur Hollywood, sur la société du spectacle en général. Il y aura plus tard Le Démon des Femmes, il y aura Faut-il tuer Sister George, et il a un rapport très ambigu à Hollywood, Jean-François Roger, ce Robert Aldrich, pur produit d'Hollywood, hein, qui a commencé vraiment en bas de l'échelle, qui a gravi tous les échelons. Il venait d'une riche famille de banquiers apparentés au Rockefeller, mais il va commencer vraiment à apprendre dans les studios, et il va sans arrêt être dans ce rapport avec Hollywood. J'y suis pas, j'en pars, j'y reviens, et il ne peut pas s'en passer d'Hollywood.
Ben non, ça, si il voulait faire les films qu'il voulait faire, il fallait évidemment passer par le système. Là, Le Grand Couteau, donc c'est un film auquel il tenait là pour le coup beaucoup. Là, vraiment, c'est un film qu'il a décidé de faire, et c'était sa manière de dire effectivement ce qu'il pensait d'Hollywood, du système hollywoodien et des producteurs. C'est un récalcitrant, Aldrich. C'est quelqu'un qui, quand on voit un peu son parcours, il s'est fâché avec beaucoup de gens. Il devait être assez pénible, les acteurs, les producteurs. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était un peu comme ses héros, finalement, en guerre systématique, peut-être même c'était sa manière d'être et de travailler, contre le système. Donc il va prendre la pièce de Clifford Odets, Le Grand Couteau, pour l'adapter au cinéma.
Il faut préciser que Clifford Odets, qui est dramaturge de gauche communiste hollywoodien, qui a été dénoncé par Elia Kazan en 1952, et rappeler que Robert Aldrich est très proche des milieux de gauche
absolument
hollywoodien.
Aldrich a dit, si j'étais rentré au cinéma plus tôt, parce qu'il rentre dans le cinéma en 1941, si j'étais rentré plus tôt, j'aurais sans doute été communiste. Il l'a dit plusieurs fois, il a dit que c'était les gens les plus intelligents, les plus intéressants avec qui on pouvait travailler à Hollywood. Il était très proche des milieux progressistes. Il va travailler avec Abraham Polonsky et des gens comme ça aussi. Il sera assistant de gens qui seront mis sur la liste noire par la suite. Et donc, le Grand Couteau, c'est une dénonciation du système hollywoodien. Un système, encore une fois, vous l'avez dit, où à la fois, auquel il s'oppose et en même temps, sans lequel il ne peut rien faire. Et cela dit, ça va à un moment donné lui coûter cher, puisqu'il va à un moment donné s'exiler presque, enfin faire des films en dehors d'Hollywood, parce que sa cote n'est plus aussi élevée qu'elle l'était au moment où il faisait ses succès. Et donc c'est ce ressentiment là aussi qu'on entend qu'on voit dans les films d'Aldrich.
On raconte d'ailleurs que c'est parce que Harry Cohn, le patron de la Columbia, s'était reconnu dans le personnage interprété par Rod Steiger, qu'il va renvoyer Robert Aldrich du tournage de Raquette dans la couture, et que c'est à ce moment là que Aldrich va s'exiler effectivement en Europe, où il tournera notamment Sodome et Gomorre en Italie. Alors, vous l'avez dit, c'est adapté d'une pièce, d'une pièce de Clifford Odets, et on reprochera beaucoup, les gens ont beaucoup de choses à reprocher à Aldrich, ils vont souvent lui reprocher sa théâtralité. Or, c'est justement tout l'intérêt du film. Alors là, Bazin a dû se régaler sur le côté cinéma impur, parce qu'on est dans une pièce de théâtre, mais ça, il va le montrer quasiment, Marcos Uzal, que Le Grand Couteau est une pièce de théâtre, il va surjouer la théâtralité.
Oui, notamment avec Rod Steiger, là, qu'on vient d'entendre, qui est un personnage. C'est une performance assez incroyable, qui est peut-être le premier personnage d'Aldrich, qui frôle le grotesque, tellement il est dans l'excès. Et cette théâtralité, c'est une chose peut-être à laquelle on ne pense pas immédiatement quand on pense à Aldrich, on pense plutôt à la violence, à l'action. Et en fait, il y a une dimension très théâtrale dans dans quasiment tous ses films, y compris un film comme Les Douze Salopards dont on parlera tout à l'heure, où il y a toute une partie du film où ce sont des dialogues, des huis clos, énormément de huis clos, et une importance énorme accordée au dialogue chez lui. Donc c'est aussi un cinéaste de la parole, et y compris alors les combats, l'action, ça passe aussi par la parole beaucoup chez lui.
Oui, l'affrontement se passe dans des huis clos,
mais
la plupart du temps.
Pas, Jean-François Roger. Voilà, un film dans les grands espaces, mais en fait, la manière, les entrées dans le champ, c'est des entrées théâtrales, quoi. C'est acte 2, tout d'un coup, Gene Peters, hop, rentre dans le champ, et tout d'un coup, on change de scène. Donc cette théâtralité-là, cette impureté-là, elle fait partie, oui, du cinéma d'Aldrich, et c'est, elle fait partie de ce sentiment de dissonance. Qu'on ressent quand on voit un film d'Aldrich. Il peut passer d'un plan général très naturaliste à un gros plan très grotesque tout d'un coup. Et ça, c'est vraiment ça marque.
Oh Jane, I'm sorry. I didn't mean to ring for my breakfast. I was just wondering who all those people were at the back door.
Wasn't anything. Just that nosy Mrs. Bates going on about your picture last night.
Oh, really? Did she like it? Oh, really? Did she like it?
She liked it.
I remember when it first came out, it got a tremendous reception. The critics described it as brilliant.
Do you remember what year you made that picture?
But of course. You must too, 1934, right after I did Moonglow.
I made a picture that year too.
Oh, yes. It was that comedy directed by Lloyd, wasn't it?
No, it wasn't. It was a love story. The Longest Night. Marty McDonald said it was the best thing I ever did. They never even released it in the United States.
Feldman was very upset. He told me the company had a very bad year and they couldn't afford...
No, they didn't. They had a great year. They didn't want to show my film. They were too busy giving a big build-up to that crap you were turning out.
Alors dans le genre affrontement théâtral en huis clos, c'est pas mal. Qu'est-il arrivé à Baby Jane en 1962, l'affrontement entre deux monstres sacrés du cinéma, John Crawford et Bette Davis? Alors c'est un film très compliqué à catégoriser, à mettre dans un genre, Jean-François Roger, c'est à la fois un thriller, un film d'horreur, un mélodrame, un film psychologique, un film sur Hollywood aussi, puisque ce sont deux anciennes actrices. On est presque dans Sunset Boulevard par moment, notamment par l'utilisation des anciens films que John Crawford et Bette Davis avaient fait pour la Warner et qu'on va voir dans le film. C'est un très grand succès public pour ce film. Ça remet un peu Aldrich en selle après ces difficiles années où il tourne en Europe un peu parce qu'il a été banni d'Hollywood d'une certaine façon. Et c'est aussi le moment d'un basculement critique, il me semble, contre Aldrich. Le film est présenté à Cannes en 1963. Il fait un grand scandale. Tous les articles s'appellent « Qu'est-il arrivé à Robert Aldrich ?» C'est un peu facile, mais on lui reproche quoi? On lui reproche de faire du grand guignol, de...
Oui, on lui reproche son mauvais goût, sa trivialité, le grand guignol, l'exagération, l'invraisemblance. Enfin là, on voit tout d'un coup, il est plus du tout en odeur de sainteté, enfin parmi la critique. Enfin, il est encore défendu par les gens qui ont du goût, mais il est en mauvaise posture. Et puis aussi, peut-être qu'on lui reproche son succès public aussi, parce que le film est un énorme succès. Et en fait, c'est un film qui nous dit aussi, enfin qui nous oblige à nous rendre compte que c'est pas seulement un cinéaste de l'homme, c'est aussi un cinéaste de la femme, hein, Aldrich.
Alors il aime bien les femmes. C'est son premier film de femme.
C'est son deuxième film avec Joan Crawford, par exemple. Il tourne avec elle un très beau film qui s'appelle Feuille d'automne. Avec Joan Crawford et Cliff Robertson pour la Columbia, je crois que c'est 56 ou 7, et c'est déjà un film très très, là pour le coup c'est un film très émouvant, et en fait ce qui l'intéresse chez les femmes c'est une certaine dimension monstrueuse. Et revenons à Bronco Apache, hein, qui est son premier grand film. Le personnage de Gene Peters, et par son masochisme, elle suit Masai à travers les montagnes, les pieds nus, ensanglantés, etc. déjà un personnage féminin un peu monstrueux. Et la monstruosité féminine, de toute façon, le questionnement sur l'identité sexuelle est toujours présent chez Aldrich, hein, que ce soit la masculinité ou la féminité. Et là, on peut dire que Katie Lavery avec Bill Jane, c'est le goût pour les femmes monstrueuses chez lui qui s'affiche. Et puis, c'est aussi, vous l'avez dit, un film sur Hollywood, c'est-à-dire que c'est un film sur la décadence d'Hollywood, dans la décadence telle qu'elle s'imprime dans le corps, tout simplement, des actrices vieillissantes. Donc, évidemment, c'est pas de très bon goût, mais enfin, c'est comme ça. Et puis, et Joan Crawford et Bette Davis, donc les deux stars ont joué de ça aussi, avec une grande intelligence. Et donc, c'est d'une certaine façon, on imagine bien Aldrich se réjouissant du pourrissement de ce système qu'il déteste fondamentalement. Et aussi, on peut dire que après-guerre, au moment où Aldrich commence à travailler, il y a dans le cinéma hollywoodien une nostalgie pour le cinéma des années 30, pour le musical des années 20, Château sous la pluie par exemple, c'est un film complètement nostalgique d'un moment, d'un âge d'or du cinéma. Et lui, il nous dit, mais non, c'était un moment de névrose, ça va annoncer des horreurs à venir, etc. Donc il y a aussi cette manière de se moquer de cette nostalgie qu'il y a dans le cinéma hollywoodien en faisant ce film. Il y a vraiment cette volonté-là.
Et il y a un côté presque documentaire dans ce film à plusieurs niveaux. D'abord parce que il a un grand succès public, mais c'est un film qui est fauché au départ, d'où le huis clos aussi dans la maison, d'où le fait que toutes les séquences d'extérieur vont pas être tournées sur devant des transparences. Quand Bette Davis sort avec sa voiture dans Hollywood, elle sort effectivement dans sa voiture de Hollywood, donc on voit le Hollywood de l'époque. Et puis il y a évidemment, ça c'est la légende du film, la haine totale entre Bette Davis et John Crawford, rival depuis les années Warner. Je résiste pas à vous donner quelques citations de Bette Davis quand elle parle de John Crawford. Un jour, elle dit, si John Crawford venait à prendre feu, je ne me donnerais même pas la peine de lui pisser dessus. Ou, pourquoi suis-je si doué pour jouer des salopes? Car je n'en suis pas une. Peut-être est-ce pourquoi John Crawford incarne si souvent des dames. Et ce côté documentaire est très frappant dans le film, Marco Suzanne.
Bah oui, c'est-à-dire qu'il va filmer cette haine, il va là. Mais par rapport à ce que disait Jean-François et sa vision d'Hollywood, ce qui est intéressant, là encore, c'est le côté anti-mythologique qui va se faire de deux façons, parce que dans Le Grand Couteau, il faut dire que c'est des films. Grand Couteau, par exemple, c'est un film contemporain, quasiment contemporain de Sunset Boulevard, des Ensorcelés, de tous ces films où Hollywood se regarde. Mais regarde presque sa décadence, mais ça veut dire aussi avoir conscience qu'il y a eu un âge d'or. Dont on peut avoir la nostalgie. Et effectivement, lui, dans Le Grand Couteau, il n'est pas du tout là-dedans. Il montre Hollywood comme une bande de mafieux. Et ici, au contraire, c'est pousser, effacer toute forme de nostalgie par le monstrueux. C'est-à-dire que
Et dire aussi que ça a été pourri dès le départ.
Voilà, c'est pourri dès le départ.
Pourri dès le départ, c'est ça l'idée. Alors sur la haine, Bette Davis, Joan Crawford. On sait aussi qu'elle a été un peu, ça a été un argument publicitaire. Elle a été un peu exagérée au moment de la sortie du film. Les biographies de Crawford et Davis, enfin, ça nous dit que tout ça n'était quand même, était un peu fabriqué. Mais il est vrai que il est évident que le succès public, le succès que le film a eu, repose sans doute cette idée qu'on allait voir un spectacle de foire, c'est-à-dire qu'on allait voir, là pour le coup, là comme disent les universitaires, il y avait de l'intertextualité, c'est-à-dire que on allait voir la vraie Joan Crawford, la vraie Bette Davis se bouffer le nez, quoi, se taper dessus. Et donc je pense que ça explique aussi le succès du film.
Et il refera à peu près la même chose avec Olivia de Havilland dans Chut Chut, chère Charlotte, qui est un film où il a poussé assez loin le grand guignol.
Oui, alors là, c'est un film qui est très mal perçu, considéré comme une suite opportuniste qu'est-il arrivé à Baby Jane. Mais il faut quand même préciser que, comme il est indépendant, comme il a sa propre société de production, qu'il veut absolument garder son indépendance artistique, Robert Aldrich est condamné au succès. Si ces films ne marchent pas, il est obligé de laisser tomber sa boîte. Or, c'est un film que vous aimez bien, ça, Chut Chut, chère Charlotte.
Oui, j'aime beaucoup Chut Chut, chère Charlotte, qui est un film, à cause de son côté peut-être plus grand guignol assumé, et dans lequel il va faire jouer à Olivia de Havilland un rôle quand même qui est plutôt joué des rôles très positifs, etc. Ici une femme assez perverse, il aime bien aussi être dans le contre-emploi, voilà, de même qu'il va faire jouer des rôles très sympathiques à Jacques Palance, il va faire jouer un rôle terrible à Olivia de Havilland.
Ce devait être Joan Crawford d'ailleurs, et puis finalement elle n'a pas accepté le rôle et donc il l'a donné à Olivia de Havilland. Et c'est un film qui est, c'est davantage un film d'horreur, je suis charmé, marqué par Psychose.
Enfin, il y a tête coupée qui roule dans l'escalier,
tête tout coupée ça. Qui roule. Donc on pense à Psychose ou même au film un peu de William Castle qui sont un peu des variations version de série B, mais il y a c'est davantage un film d'horreur que l'était qu'est-il arrivé à Billy Jane.
What's your name, soldier?
Number two, sir.
Morgan, Clayton.
Yes, sir.
Give Clayton this man's name, rank, and serial number, and that goes for the rest of them.
Well, I really don't know that, sir.
Then tell him what you do know.
You think you tell him nothing?
What was that talk down there?
Nothing, sir.
Come here, soldier. When did you bathe last?
I don't remember, sir.
You're filthy. Disgrace to the uniform. Sergeant Fredericks, get me a razor and some water. This man is now going to demonstrate the proper procedure for shaving and bathing in the field.
Yes, sir.
Right, soldier?
No, sir!
No, sir, what?
No, sir, I am not going to shave, sir!
Then we'll have to do it the hard way. Clayton, Blake, dry shave him.
No!
Reisman, that's right. You'd be good enough to have your men dispose of their weapons. Sergeant Barron!
Sir!
Get some special help and get those weapons.
Yes, sir. All right, you heard the man. Now get moving.
Hit him only where it hurts.
Turn it loose.
C'est évidemment le plus connu des films de Robert Heinrich, hein, celui que tout le monde a vu ou presque, son plus grand succès commercial, qui lui permettra même d'acquérir ses propres studios pendant un temps. C'est Les Douze Salopards, c'est Repris de Justice embarqué dans une mission suicide. C'est pas le premier film de guerre d'Aldrich. Il avait fait, on parlait de Jack Palance tout à l'heure, un film assez extraordinaire qui s'appelle Attaque en 1956. Un film déjà qui remettait en cause la figure du héros mort pour la patrie, un film très anti-autoritaire qui s'attaquait aux officiers. Quand Les Douze Salopards sort, il faut le rappeler, comme on est en 1967, on est en pleine contestation très violente parfois de la guerre du Vietnam, et c'est le moment, sans doute, où l'obsession anti-autoritaire d'Aldrich rencontre l'air du temps, Jean-François Roger.
Oui, encore que, à l'époque, quand le film est sorti, une grande partie de la... Là, Aldrich devient carrément fasciste pour une partie de la critique.
Pour la critique, apologie de la violence et des valeurs fascistes.
Voilà, oui. Les films de guerre, etc. Et le film, il est formidable parce que c'est vraiment une réflexion sur l'individualisme et comment 12 individus vont ne plus former qu'un corps organique parce qu'ils ont été dressés. Et je pense que c'est un film extrêmement sombre et pessimiste, notamment, enfin, fait par quelqu'un qui n'a pas arrêté d'exalter la volonté de puissance et l'individualisme forcené et la réussite individuelle. Et là, on nous raconte la manière comment 12 récalcitrants vont se faire tuer pour le système. Donc c'est un film. Après, le film a beaucoup d'ambiguïté. Il a beaucoup d'ambivalence. Il y a un côté très très réjouissant dans le film, mais un peu méchant même. C'est un film extrêmement méchant, puisqu'en gros il s'agit d'aller pour un commando d'hommes, d'aller tuer le plus d'Allemands possible, ce dont se souviendra Tarantino pour Inglourious Bastard. Toute l'idée de ce commando qui en fait n'a pas d'autre objectif que de tuer le plus de monde possible est évidemment, elle se trouve déjà dans Les Douze Salopards. Mais il y a c'est un film très très sombre. Il y a cette scène où, à un moment donné, ils chantent tous à l'unisson les ordres qu'ils ont reçus, alors que le début du film les montre comme étant des individus irrécupérables. Et donc, l'idée que ce film est un film belliciste ou fasciste est une idée totalement farfelue. C'est au contraire un film qui nous montre comment le système rend l'individualisme impossible.
Mais parce que l'identification au héros aldrichien est toujours quand même très compliquée, Marco Souza. Dans ce film, au début, on est avec Lee Marvin parce qu'on le montre comme un soumis soumis aux ordres. Et puis après, on va le suivre, même s'il devient un peu trop autoritaire, mais on a en face de nous des affreux, donc on peut pas les suivre. Puis une fois qu'ils deviennent de héros, on est avec eux. Puis quand on se rend compte qu'ils vont faire un acte qui est quand même assez assez monstrueux, enfin, on se souvient des officiers allemands avec leur maîtresse enfermée dans la cave à qui on balance de l'essence et des grenades. Donc on évoque à la fois le napalm
et les chambres à gaz.
Ce qu'explique Aldrich, en gros, c'est qu'il faut être plus assassin que les assassins pour gagner une guerre. Mais enfin, ça rend le rapport qu'on a avec le personnage aldrichien très compliqué, Marco Suzanne.
Oui, tout à l'heure, on parlait du parcours moral des personnages d'Aldrich. Ici, il est très particulier, puisqu'effectivement, au départ, on a une bande de personnages irrécupérables, des assassins très inquiétants, et qui vont commettre à la fin une action, mais est-ce qu'on peut dire qu'elle est héroïque ? C'est là où est le pessimisme d'Aldrich, c'est qu'elle est pas. C'est à la fois une action héroïque, mais un peu absurde. C'est l'action en elle-même qui les rend héroïques, mais pas le sens de cette action. Et donc tout le film, c'est le parcours de ce personnage qui est à la fois d'un côté une sorte de dressage, si vous voulez, et en même temps, il y a une forme de rédemption par l'action chez eux. Donc effectivement, on ne cesse de changer. Il y a peut-être un seul personnage qui est Elie Savalas, qui est peut-être le seul personnage qui reste inquiétant et négatif jusqu'au bout. Peut-être parce que c'est un mystique un peu fou et que je pense que la religion ne touchait pas beaucoup à Aldrich.
C'est un redneck mystique.
Voilà. Et de même, le personnage de Robert Ryan, qui représente
le colonel ridicule. Hein.
Voilà, l'autorité, la hiérarchie militaire est ridicule dans sa rigidité, en fait.
Alors, Aldrich aimait beaucoup le football. Il était, en fait, il a fait des études désastreuses. Il s'intéressait qu'au football et où il faisait partie du club d'université où il embauchait des orchestres de jazz pour faire des fêtes. Donc c'était et il prend dans les 12 salopards un champion de football qui est Jim Brown. Le personnage noir du film, et c'est lui qui jette les grenades dans les bouches d'aération, et il le fait comme s'il marquait des touchdowns au football, c'est-à-dire que le sport, l'action comme un pur sport, là ça s'incarne tout d'un coup par la façon dont il filme cet acteur qui est un ancien champion de football.
Aïe, oh, c'est le reste.
Yes, sir. Gee whiz. Me and you if we ain't the team. But we can go to prison and free the con. We can capture Mexico. We can do in Rome as the Dagos do. Knocking down everything we see all stuck on ourselves. Cigarette and A number one. Yes, sir.
Kid. You got no class. Hit the barns, kid. Run like the devil. Get a tin can and take a motion. Tackle back doors for a nickel. Tell them your story. Make them weep. You could have been a meat eater, kid. But you didn't listen to me when I laid it down. Stay off the tracks. Forget it. It's a bum's world for a bum. You'll never be emperor of the North Pole, kid. You had the juice, kid, but not the heart. And they both go together. You're all gab and no feel. And nobody can teach you that. Not even A number one. So stay off the train. She'll throw you under for sure. Remember me for that. So long, kid.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Robert Aldrich avec Jean-François Roger et Marcos Uzal. La fin de carrière d'Aldrich dans les années 70 est sans doute encore plus vilipendée par la critique que ses films de la décennie précédente, alors qu'elle recèle nombre de pépites comme cet empereur du Nord dont on entend la fin ici en 1973, un affrontement à mort comme souvent chez Aldrich entre deux personnages que sont Lee Marvin et Ernst Borgnine, c'est-à-dire les acteurs Aldrich par excellence, mais alors là, il pousse ça très très loin, Robert Aldrich, on est presque dans le cartoon, dans l'affrontement sauvage permanent.
Oui, alors pour revenir sur la fin de carrière d'Aldrich, elle est peut-être même encore plus belle que c'est les années 50. Quoi. C'est quelque chose. On parle beaucoup du nouvel Hollywood, donc ces jeunes réalisateurs qui débutent dans les années 60, mais je pense que il y a toute une génération de cinéastes qui débutent donc après dans l'après-guerre, qui suivent finalement la santé du cinéma hollywoodien. Les années 60, c'est une décennie un peu faible. Il n'y a pas de cinéastes vraiment qui émergent. Et les vétérans, les plus anciens tournent leurs derniers films, qui sont souvent sublimes, ou Ford, Walsh, etc. Et puis, il y a cette génération intermédiaire, qui, comme vous l'avez dit, qui débute après-guerre, des gens comme Richard Fleischer, Don Siegel. On a parlé de Fuller, mais lui, Fuller, dans les années 70, il est plus à Hollywood, donc il fera plus rien. Et puis, Robert Aldrich. Et là, des gens comme Fleischer, Siegel ou Aldrich, tout d'un coup, ils font peut-être leurs meilleurs films dans les années 70. Et souvent d'ailleurs des films qui s'opposent, même idéologiquement, logiquement, au cinéma du Nouvel Hollywood. On a un peu tout mis dans le même sac, parfois, le cinéma américain des années 70, mais je pense qu'il y a deux générations qui vont s'affronter là, et là, Aldrich, à ce moment-là, tourne sans doute quelques-uns de ses chefs-d'œuvre, peut-être quelques-uns des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma américain. L'Empereur du Nord en est un, mais il y a encore...
Et aussi un règlement de compte avec la jeunesse, parce qu'il y a le personnage de Keith Carradine qui peut incarner, on pourrait dire, c'est le Nouvel Hollywood, justement, à qui Lee Marvin dit à la fin, descend du train, parce que t'as vraiment pas la classe.
Quoi. Oui, il y a ce côté-là, oui. Et puis les barbus d'Hollywood, comme Billy Wilder disait, là, il n'y a plus que des barbus qui font des films.
Il y a un film que vous aimez beaucoup dans cette dernière partie de carrière d'Aldrich, Jean-François Roger. C'est un film alors, qui a été encore très très mal compris et très mal vu parce qu'il y avait Burt Reynolds dedans. Mm-hmm. Donc ça voulait dire que c'était évacué d'emblée. Mais il y a aussi Catherine Deneuve, c'est La Cité des Dangers.
Ah oui, ça c'est sans doute un des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma américain. C'est un très 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 grand film d'une grande amertume, d'une grande tristesse. C'est sans doute un des films les plus tristes de l'histoire du cinéma américain. A priori, c'est un film noir, enfin un film policier puisque le héros est un policier, mais c'est surtout une histoire d'amour entre ce policier joué par Burt Reynolds, image du macho américain de à ce moment-là. Il venait de tourner d'ailleurs Plein la gueule, un film de football dans une prison avec Aldrich, et donc le succès de Plein la gueule leur donne l'idée de réaliser ce film qui aura beaucoup moins de succès, qui fâchera, je crois, les deux hommes. Et c'est une histoire d'amour entre ce policier et puis une escort girl, une call girl française, d'origine française, jouée par Catherine Deneuve, et donc qui exerce son métier pendant que lui exerce le sien. Donc il y a une espèce d'expression comme ça, un peu inattendue, de l'amour entre deux personnages, d'une relation amoureuse. Et puis il y a le désespoir. Là, pour le coup, c'est vraiment un film sur la difficulté de se connaître entre les hommes et les femmes. Hein. Quelque chose nous échappe chez la femme plutôt, etc. Qu'est-ce que je peux connaître? Qu'est-ce qui la fait jouir? Pourquoi je n'arrive pas à atteindre ce secret-là? Et là, c'est très précisément expliqué par des trucs de mise en scène. Ça, pour le coup, c'est un grand metteur en scène, Aldrich. Donc, il y a une scène où on entend une chanson d'Aznavour. Elle envoie un message sexuel à un client au téléphone. Et lui, il est sur le balcon. Donc, la chanson d'Aznavour, la voix de Catherine Deneuve. Et lui, se remémore, en fait, sa première femme qu'il a trompée. Et donc il l'a pris en flagrant délit. Donc il y a qu'est-ce qui fait jouir les femmes, hein. C'est vraiment le sujet profond de ce film. Je pense que rarement le cinéma américain est allé aussi loin dans ces questions-là. Et c'est un film absolument magnifique qui n'a pas eu le succès qu'il méritait, sans doute pas non plus l'accueil critique qu'il méritait. C'est un film qui va petit à petit faire son chemin, qui a heureusement été réédité il y a quelques années en salle. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que pendant longtemps il n'y avait quasiment plus de copies du film à montrer. Là, je parle un peu en connaisseur, puisque je cherchais beaucoup ce film. Et La Cité des Dangers, c'est vraiment un très 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 grand film.
We'll be right back.
Merci Jean-François Roger. En attendant, une nouvelle rétrospective Robert Aldrich à la Cinémathèque française. La dernière, c'était il y a exactement 10 ans. La filmographie d'Aldrich est en partie disponible en DVD, voire en Blu-ray, comme en quatrième vitesse chez Carlotta. On vous recommande particulièrement la très belle édition de L'Empereur du Nord, dont on entend en ce moment la chanson interprétée par Marty Robbins, sortie il y a un an et demi et quelques chez Wildside, avec un livret de 86 pages sur la genèse du film, illustré de rares photos d'archives. Pour en savoir plus sur le cinéaste, Robert Aldrich, Violence et Rédemption de William Burton, s'est édité au PUF. Dans les salles, mercredi prochain, quelques rééditions restaurées, où il y en a encore pour tous les goûts. Si vous voulez revivre le Paris de 1951, vu par un groupe de touristes italiens venus à l'occasion d'un match de foot France-Italie, il y a cette merveille pétillante qu'est Paris est toujours Paris, de Luciano Emer. Les amateurs de Gaspard Noé et de montage à l'envers iront voir Irréversible, et ceux qui se sentent une âme flamenca iront taper des pieds et des mains à la trilogie de Carlos Saura, Noce de sang, Carmen et L'amour sorcier. Tout ça est en salle, donc à partir de mercredi prochain. À présent, accrochez-vous à vos fauteuils, serrez les dents et ouvrez les yeux. Il est temps de partir avec Richard Fleischer sur les traces du mal avec un grand M.
It's very good of you to go to all this trouble.
Oh, not at all.
All my doctor does is keep giving me this cough mixture.
Well, not many of them know about this stuff.
Oh, it smells just like Friar's Balsam.
Well, yes, that's in it. It's a mixture, what we call a compound.
Let's see.
Now, here's the little mask that goes over your face. Oh, have you finished with your tea?
Yes, thank you.
Fine. And when it's over your face, you must breathe deeply so you take in all the vapours, you see. You may feel just a bit dizzy.
What's that for?
That's the extractor. It gets rid of what we call all the waste products. Now then, you put the mask over your face, lean your head back, lean right back, shut your eyes, close your eyes, that's it. Shut your eyes. Now then, start your breathing then. Breathe quite deeply. Breathe. Breathe.
It smells a bit funny, Mr. Christie.
Yes. Do you feel a bit dizzy?
I do a bit.
Yes, well, that's all the goodness taking effect. Breathe, Muriel. Breathe. No, Muriel. No, no, no. Breathe, Muriel. No. No, 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 no. Breathe, breathe, breathe.
Respirez, respirez, mais soyez très inquiets, l'étrangleur rôde. C'est un extrait de L'étrangleur de Rillington Place, un des trois films méconnus de 1971 à 1972 de Richard Fleischer, que sortent les éditions Carlotta en version restaurée DVD Blu-ray avec Terreur aveugle et Les flics ne dorment pas la nuit. Richard Fleischer, on le connaît pour ses grands films de studio, mais c'est comme si on le redécouvrait sans cesse, tellement il est éclectique dans les genres qu'il aborde. Heureusement, le DVD est là pour nous rappeler que c'était aussi un grand réalisateur de série B, de thriller impeccable. On a aussi pu revoir récemment L'étrangleur de Boston ou Les inconnus dans la ville. On a longtemps considéré Fleischer comme un faiseur, certainement pas un auteur. La seule publication disponible sur lui à ce jour, vous me l'avez rappelé, Ian Tebbin, c'est un dossier de 26 pages avec entretien extrait de ses mémoires, paru dans Positif il y a 10 ans, dans le numéro 544 pour être précis, de juin 2006. Est-ce que ces trois films vont contribuer, à votre avis, Ian Tebbin, à réhabiliter le metteur en scène extrêmement inventif qu'il est?
Absolument. Vous disiez pas reconnu comme auteur, parce que c'est un auteur discret, c'est un auteur qui ne se met pas en avant, qui est extrêmement virtuose, mais cette virtuosité ne s'affiche pas. Et c'est peut-être pour ça que c'est devenu une sorte d'auteur pour cinéaste, c'est-à-dire que encore plus que pour cinéphile. D'ailleurs, les suppléments de ces DVD, c'est essentiellement d'autres cinéastes, Nicolas Saada notamment, ou Nicolas Boukrieff, qui est très brillant, qui ont analysé son style pour voir comment il faisait pour percer ses secrets et peut-être en tirer des enseignements. Alors, Fleischer, c'est le fils de Max Fleischer, le créateur de Popeye, de Betty Boop, grand animateur, mais aussi un graphiste. Et le sens de la composition graphique est toujours très important chez lui, de la composition du cadre, les mouvements de caméra, les angles de prise de vue, comment les personnages se meuvent dans l'écran. Mais c'est aussi quelqu'un qui a fait des études de psychiatrie destinées à ça. Donc, et c'est présent puisque quasiment tous ces films sont des expériences de jusqu'où on peut aller sans sombrer complètement dans la folie. Ensuite, il a fait des études de théâtre. Son père lui avait demandé de choisir. Il a choisi théâtre. Il y a appris notamment à être acteur et à diriger des acteurs. Les acteurs adoraient être dirigés par Richard Fleischer, même quelqu'un d'aussi difficile, peut-être qu'Orson Welles ou George C. Scott. Et puis ensuite, avant de passer réalisateur de série B à la RKO, eh bien, il a passé 3 ans d'apprentissage à Pathé News, c'est-à-dire les actualités de l'époque. Et c'est aussi quelqu'un qui a appris à filmer le réel, la réalité de son temps. Et même si on peut pas parler chez lui d'un engagement délibéré, les préoccupations sociales sont toujours présentes dans ses films. Là, par exemple, L'étrangleur de Rillington Place, c'est une
tournée
peinture.
Tournée en Angleterre.
Voilà, tournée en Angleterre. Ça commence sous le Blitz, où il y a ce prologue qu'on vient d'entendre avec Richard Attenborough qui est hallucinant et qui étrangle et puis il viole, on sait pas bien, une de ses locataires, puisqu'il est un peu le gardien de l'immeuble. Et ensuite, ça va être une sorte de chronique de l'Angleterre d'après-guerre dans des quartiers pauvres. Et ça va finir par une sorte de réquisitoire contre la peine de mort.
C'est inspiré d'une histoire vraie, comme on dit maintenant. Enfin, un fait divers tout à fait sordide.
Absolument. Il adorait ça. Fleischer, il disait, de toute façon, la réalité dépassera toujours la fiction. Je suis même obligé d'atténuer les faits réels, parce qu'ils se documentaient énormément, parce que sinon, on n'y croirait pas à l'écran. Donc, par-dessus ça, C'est quelqu'un qui, grâce à son apprentissage à la série B, a toujours été très conscient des budgets. Et ça l'a amené à une sorte de contrainte productive stylistiquement. C'est devenu un maître du plan-séquence. Mais pas du plan-séquence avec la caméra qui fait les pieds au mur, etc. Plan-séquence le plus efficace possible, avec une vraie chorégraphie. Mais encore une fois, toujours caché derrière l'histoire et les personnages.
Notamment donc dans Terreur aveugle, film avec Mia Farrow qui joue une aveugle persécutée par un étrange tueur dont on ne verra jamais le visage sauf à la toute fin parce que lui va filmer en plan séquence mais à hauteur de pied.
Oui, et en plus il essaye de remplir ce pari de nous mettre toujours du point de vue d'une aveugle. Mais nous, spectateurs voyants, tout en nous montrant des choses qu'elle n'est pas censée voir. Donc c'est un pur exercice de virtuose de mise en scène, peut-être plus ostentatoire que dans les autres films, parce que c'est un exercice de style en fait, un exercice de direction de spectateur. Mais je voudrais revenir à son art du plan séquence dans Les flics ne dorment pas la nuit, avec George C. Scott et Stacy Keach, qui sont fabuleux. Ce sont les nouveaux centurions, mais enfin plutôt désabusés, dans une société américaine.
C'est le titre en anglais, The New Centurions.
Voilà, une société américaine qui est complètement, qui est en déréliction et qui annonce beaucoup la société d'aujourd'hui. Vous avez un plan séquence qui est historique de George C. Scott au téléphone. Et on voit aujourd'hui, si on l'analyse, que c'est un tour de force. Mais à l'époque, ça se fondait dans la narration globale.
Merci Ntebing. Le coffret Richard Fleischer est édité par Carlotta. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son ce samedi, Baby Jane, Jean Fredericks. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somanina et Delphine Lemaire. La semaine prochaine, notre franc-tireur estival sera Alain Cavalier. Nous serons avec Natacha Thierry et Charlotte Garçon qui, en fin d'émission, nous parlera également du cinéma de Mario Ruspoli. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, c'est votre moment proustien avec Antoine Compagnon.